Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Bonjour à toutes et tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque lundi au micro du 5FM. Vous est-il déjà arrivé de vous lever un matin et de vous dire « c'est aujourd'hui qu'une nouvelle vie commence » ou « c'est aujourd'hui que les choses vont changer » ? Eh bien, l'auteur dont je vais vous parler en dernière partie de l'émission n'a, pour ainsi dire, pas attendu le lendemain pour agir en faveur de la paix et de la compréhension interculturelle. J'évoquerai donc le dernier livre, largement autobiographique, du romancier Marek Alter. Mais tout d'abord, deuxième volet de notre série consacrée au Québec et à l'Afrique, à l'occasion du troisième colloque en relations internationales du Québec, qui se tient aujourd'hui même à l'ENAP et qui est organisé donc par le groupe d'études en relations internationales du Québec. Nous en parlions à l'émission précédente, où nous avions abordé par ailleurs la question des relations économiques et commerciales entre le Québec et l'Afrique. Alors aujourd'hui, donc comme promis, voyons la question de la, ou plutôt des cultures en Afrique, la compréhension que nous en avons ici et le regard que cette dernière peut nous apporter. Et pour nous partager cet éclairage, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Gérard Lechêne. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes PDG de Vue d'Afrique. Tout d'abord, qu'est-ce que Vue d'Afrique ?
Vue d'Afrique, c'est surtout connu comme un festival de cinéma qui est né il y a bientôt 30 ans parce qu'on célèbre notre anniversaire 30e l'année prochaine, en 2014. C'est un festival qui a grossi puisque on s'est toujours efforcé d'accompagner les films africains, surtout à l'époque quand ça a été créé, remplissait un déficit d'information et surtout d'information culturelle sur l'Afrique et ses ramifications, les Caraïbes, l'océan Indien. Et on s'est efforcé d'aller les films souvent suscite de l'intérêt, de la curiosité, des questions. Et donc, on s'est efforcé d'apporter des réponses par des rencontres, des débats, des colloques, des expositions. Et donc, on a différentes des activités. On a, qui sont devenues autonomes, un rallye d'exposition qui s'étend du 1er février, parce que c'est le début du mois de l'histoire des Noirs, jusqu'à l'été. L'année prochaine, on joue beaucoup sur le chiffre 30, ça va être 30 expositions. On a des activités dans les écoles, un programme des goûts et des couleurs où des artistes présentent des activités toujours interculturelles relatives à l'Afrique avec une comparaison, etc., des valeurs, de la sagesse populaire et tout ça. On a même des activités en Afrique même où on présente des semaines de cinéma québécois.
Montréal a la chance d'accueillir énormément de festivals de cinéma. T'es d'ailleurs la semaine dernière au Festival international du film brésilien. Donc j'attendrai avec plaisir de pouvoir réassister au Festival Vue d'Afrique. Je vais pas vous demander 30 idées, mais quels sont les thèmes principaux qu'aborde le cinéma africain à l'heure actuelle?
Oui, c'est ça, parce que ça a évolué beaucoup. Avant, ça a beaucoup été tradition et modernité. Mais maintenant, il y a une immense variété de thèmes. Alors, on peut distinguer ceux qui sont traités par les cinéastes africains eux-mêmes ou ceux qui sont traités par les cinéastes et les journalistes extérieurs. Par exemple, les enfants soldats, le rôle de la femme, c'est plutôt un regard de cinéaste extérieur, quoique on peut faire des réserves sur le rôle de la femme, parce que maintenant qu'il y a de plus en plus dans certains pays de réalisatrices, elle pose le problème elle-même. Il y a une grande variété de questions, et on peut dire que le cinéma africain, si on peut avoir une sorte d'appréciation globale, parce que c'est injuste, hein, il y a des cinémas africains, mais c'est que il est essentiellement à thématique sociale.
Je suppose aussi que cela dépend, vous avez commencé à aborder la question, c'est-à-dire que cela dépend également des pays qui sont concernés. Je me doute que le cinéma maghrébin n'est pas le même que le cinéma d'Afrique du Sud où les thématiques, l'histoire même est extrêmement différente.
Bien sûr, bien sûr. Et vous avez cité d'ailleurs les deux pôles. C'est sûr que maintenant, les deux pôles de création en termes de quantité, c'est l'Afrique du Sud et au nord le Maroc. Ça, c'est vraiment les pays où, qui ont une production importante et de qualité, on pourrait dire internationale. Le Nigeria produit beaucoup, mais c'est un petit peu à usage interne ou les pays proches. Et c'est vrai quantitativement. Ceci dit, s'essouffle un petit peu parce que il renouvelle pas beaucoup ses thèmes. Il y avait une recette classique, hein, mais c'était une grosse production, 2000 films par an. Mais la recette, c'était violence, sexe et juju. Juju, c'est la sorcellerie. Mais effectivement, ça lasse un petit peu le public au bout d'un moment. Alors donc, c'était un petit peu, c'est en perte de vitesse. Et le gros producteur pendant un temps, c'était l'Égypte. Et l'Égypte aussi, pour des raisons multiples, s'essouffle.
L'Égypte de Youssef Chahine, notamment, mais pas seulement, bien sûr. Je voulais vous demander, dans leur processus créatif, est-ce que les réalisateurs doivent parfois contourner la censure?
Ça dépend des pays, puis beaucoup tournent à l'extérieur. Hein. Mais il y a des pays qui sont un petit peu paradoxaux. Par exemple, le Burkina Faso, on est surpris de voir que des cinéastes traitent des sujets très sensibles et sans, on dit pas qu'on favorise la diffusion de leurs films, mais enfin, il n'y a pas de censure, d'interdiction, ni même de conséquences fâcheuses pour leur auteur.
Quels sont peut-être 2-3 films qui vous ont marqué ces dernières années? Vous vous dites, si vraiment il y avait 2-3 films à découvrir, quels seraient-ils?
Bon, c'est difficile à dire parce que là, maintenant, je suis marqué par les films qu'on est en train de choisir et tout ça. Mais de façon générale, je dirais que il faut aller regarder. On a différentes sections, hein. On a une section des films internationaux à thématique africaine parce que notre idée, c'est vraiment de faire mieux connaître les réalités africaines. Et donc, il y a des sections qui sont des films internationaux, fiction sur l'Afrique, documentaire sur l'Afrique, etc. Et il y a une autre section qui est Afrique Connexion. Ce sont des films purement africains qui sont destinés à un public africain. Et ça comprend ce qu'on pourrait appeler des téléfilms ici. C'est du cinéma numérique à petit budget. Et on présente aussi des séries qui sont extraordinairement populaires en Afrique et qui sont, on va organiser d'ailleurs une table ronde là-dessus, probablement qui vont détrôner les telenovelas. Hein, parce que, justement, je crois que je réponds maintenant à votre question, il faut compenser la faiblesse des moyens par beaucoup de créativité. D'une part, ils sont en français, d'autre part, ils sont pleins d'humour, et il y a vraiment une truculence, une authenticité, et c'est vraiment, on voyage sans quitter Montréal, alors il faut y aller. Il y a le maître du genre, il s'appelle Boubacar Diallo, il a présenté beaucoup déjà de beaucoup de films cette année, enfin 2013, c'était Congé de mariage, et puis qu'on va présenter l'année prochaine, c'est quelques épisodes d'une série qu'il a, qui est une nouvelle série qui s'appelle La Sacoche, mais donc là, on sait bien qu'on va se régaler. Il y a une autre série qui est formidable dans la sous-région. Ces vedettes se promènent dans les pays voisins. C'est une série burkinabé. Ces vedettes vont au Mali ou en Côte d'Ivoire et elles sont acclamées comme Angelina Jolie ici. Et c'est Commissariat de Tampi.
Alors on va poursuivre cette conversation avec une première pause musicale. Et puisque l'on parle d'Afrique, eh bien pourquoi pas continuer avec un petit peu de musique venant de l'Afrique et de l'artiste sénégalais Youssou N'Dour.
Wake up, stand up, Africa. Gumel sa bop. Gumlinga don don. Lu bare nga am. Lu bare nga mu. Warul no penny. Immense, immense is your wealth. Immense, immense how you dream. Banku loko ki ma talal ki ma def ni mbote defon ba don kuy bay war moy tu alal juk ci ba mu jote ragal du jam kuy ñu melni cheikh ante jité ñoo ñu melni mam bamba tété game Africa. could dream again. Queen again.
Stand up tall and walk with pride. Your blood is cool, your soul's divine. Our fathers are kings and our mothers queens, brothers and sisters of royalty. Stand up tall, know who you are. Your thoughts will nurture tomorrow's Africa. You'll see Africa. Dream again. I know. You'll see. We'll dream again. Africa. Dream again. You'll see.
Wake up, send up Africa.
Wake up. Stand
dream
up.
Again.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde en Partage sur 102.3 FM et vous écoutiez Africa Dream Again de Youssou N'Dour qui chantait en compagnie de Ayo. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Gérard Lechêne, le PDG de Vue d'Afrique, et nous abordons avec lui la question des cultures des Afriques et également des relations entre le Québec et l'Afrique pour cette deuxième partie de notre entretien. Alors, vous l'aviez dit donc juste avant cette première pause musicale, à savoir que l'avantage c'est que il y a beaucoup de pays donc qui sont francophones. Quelle est la situation de la langue française actuellement en Afrique?
Elle est à la fois une réalité, mais une réalité quand même fragile. C'est-à-dire que c'est la langue maternelle de très peu de gens. Donc, il y a d'autres langues et on n'a pas le même attachement à une langue apprise qu'à sa langue maternelle. Ce qui fait qu'un pays peut changer de langue. C'est arrivé au Rwanda pour des raisons politiques, parce que les Rwandais étaient à juste titre fâchés contre la France, et donc le français est passé à la trappe par la même occasion. Et donc ça peut se passer dans d'autres pays. Par contre, il y a quand même un certain nombre de pays où il y a un véritable attachement, et tout se joue sur l'éducation. Si c'est sûr, il y a encore de grandes fractions de gens qui ne parlent pas français, donc pour eux c'est totalement indifférent si on apprend une langue internationale, de passer, c'est même peut-être plutôt tentant de passer directement à l'anglais, qui est, on pourrait dire, encore plus international peut-être. Et donc il y a une très grande vulnérabilité. Et je crois que ça demande une très grande attention. Le Québec fait sa part, mais c'est peut-être pas vrai pour tous les pays. La France, qui est quand même le pays majeur de la francophonie, je ne sais pas si il y a cette conscience de l'importance de la francophonie mondiale.
En tant que Français, je peux vous confirmer qu'il y a un manque de conscience, en effet. Je reprécise que vous ferez partie donc du panel qui va participer au troisième colloque en relations internationales sur les relations entre le Québec et l'Afrique qui se tient aujourd'hui à l'ENAP. Comment qualifieriez-vous les relations entre le Québec et l'Afrique, et le dialogue entre le Québec et l'Afrique?
Alors, je crois qu'il est... C'est difficile à définir, pour plusieurs raisons. D'une part, il n'y a pas d'intérêt médiatique. Donc, conséquence, il n'y a pas un grand intérêt de la part de la population. Parce qu'elle l'ignore. Si on demande à des gens dans la rue, assez souvent, vous parlez des missionnaires. Donc, ça veut dire qu'ils étaient très efficaces au point de vue communication. La présence actuelle, qui est importante, est mal connue. Et à cela aussi, une grande raison, c'est qu'elle est fragmentée. Il y a les entreprises qui, souvent, ne cherchent pas à faire beaucoup de publicité, surtout si elles sont dans les mines, par exemple, où c'est un domaine un petit peu sensible. Il y a les universités qui ont beaucoup de programmes de coopération, mais qui, c'est une manie universitaire, peut-être un petit peu, mais sont un peu dans une tour d'ivoire, donc on connaît très mal ce qu'elles font. Il y a les ONG, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais sous un angle un peu humanitaire et tout ça. Et puis là encore, chaque ONG a tendance à travailler de son côté. Il y a pas mal d'initiatives culturelles, mais là encore, elles sont pas très connues. Et tout ça, d'ailleurs, on envisage de faire un état des lieux là-dessus. Pourquoi c'est si mal connu? Il y a cette réponse, parce que c'est si fragmenté. Pourquoi les journalistes s'y intéressent si peu? Par exemple, il y a eu quand même le voyage du ministre des Relations internationales, Jean-François Lisée, il y a quelques semaines, dans trois pays majeurs, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Or, les retombées médiatiques ont été à peu près nulles. Et on peut vraiment s'interroger, c'est curieux. Alors, voilà ce que l'on peut dire, sinon... Les relations directes de personne à personne, de groupe, sont excellentes. Mais justement, on peut s'interroger pourquoi il n'y a pas une dynamique plus grande, au point de vue plus large, plus populaire.
Le temps file malheureusement, alors je vais vous demander tout simplement, quel regard la culture africaine, de quelle manière la culture africaine peut éclairer les problématiques du monde contemporain.
Alors,
très vaste question que je vous pose.
Effectivement, oui, c'est une vaste question, et puis ça pourrait être l'objet d'un entretien. Mais ce qu'on peut constater, et ça c'est pas une opinion, c'est que tous les gens qui vont en Afrique reviennent en disant l'Afrique m'a apporté quelque chose. Et c'est quoi? C'est une expérience de vie. Un seul exemple. On est tous à court de temps, on se lamente, etc. Et l'Afrique nous fait redécouvrir la valeur du temps.
Je pense que c'est une excellente réponse pour conclure notre entretien. Merci beaucoup, Monsieur Le Chêne, d'avoir notre entretien. Donc, je rappelle que vous êtes le président directeur général de Vue d'Afrique, le festival de cinéma, mais pas seulement, qui se tient donc chaque année au mois de février, durant du mois de l'histoire des Noirs. Et vous avez fêté donc le 30e anniversaire du festival Vue d'Afrique en 2014. Merci encore.
Au revoir, merci.
Poursuivons cette émission et prenons le temps tout de même d'écouter un petit peu de musique. Voici « Chère trahison » de la chanteuse haïtienne Mélissa Lavaux.
C'est un coup de pied dans le ventre, mais un très mécontente, obligée d'expirer les chagrins qui me hantent. Où sont-ils donc passés? Tous les rires du matin, ils n'étaient pas avant moi, on me les a volés. Si tu me disais que tu mentais, je te déchirais la langue. Pas de chair, non étrangère à la déception, ma chère trahison. Ma chère trahison. De mes larmes à la mer, imbuvable et salée, du désert aux collines, c'est une affaire. Tu me sèches.
ma chère trahison. Ma chère trahison. C'est un coup de pied dans le ventre, mes entrailles mécontentes, obligée d'expirer les chagrins qui me... Oh, oh, oh.
C'était « Chère trahison » de Mélissa Lavaux. Vous écoutez Le Monde en Partage sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors comme promis au début de cette émission, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler du dernier livre de Marek Alterbe, que je tiens d'ailleurs dans mes mains. Alors si je vous en parle dans cette émission d'actualité internationale, c'est que ce livre fourmille vraiment de petites anecdotes historiques et politiques absolument passionnantes, voire truculentes. Je connaissais Marek Alterbe comme romancier, j'ai lu de lui Le Kabbaliste de Prague, qui est un livre absolument passionnant sur les tensions religieuses en Europe au XVIe siècle. Alors, Marek Alterbe, c'est ce survivant du ghetto de Varsovie et des camps de réfugiés soviétiques en Ouzbékistan qui a longtemps été apatride, donc suite à la Seconde Guerre mondiale. Il raconte d'ailleurs les circonstances de sa naturalisation française. Son livre « Faites-le », qui est paru aux éditions Kero en mai 2013, j'ai l'impression que le titre fait référence au livre de Stéphane Hessel que vous avez peut-être lu par ailleurs « Indignez-vous ». Sauf que là, Marek Alterbe le dit très bien « Indignez ». Ça fait du bien parfois de s'indigner, de crier son indignation aussi contre les injustices du monde, mais il faut également agir. Agir comment ? Eh bien, ce conteur, qui doit sa survie à son talent de passeur d'émotions, insiste sur les vertus nécessaires du dialogue, sans nier les difficultés que cet exercice impose par ailleurs. Alors, il explique ainsi qu'il est parvenu à mobiliser pour la libération d'artistes ou de personnalités, par exemple Andrei Sakharov, le prix Nobel de la paix, mais également pour agir en faveur du dialogue interculturel dans les banlieues françaises où communautés juives et communautés musulmanes ne se parlent plus et se font parfois violence. Mais il raconte également certaines rencontres qu'il a eues avec des personnalités très importantes du monde politique, religieux, par exemple Vladimir Poutine, l'ancien président français François Mitterrand ou encore l'ancien pape Jean-Paul II, et des quelques gestes symboliques qu'il leur a soufflés. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tout cela, mais c'est absolument passionnant. L'auteur nous invite ainsi à nous connaître nous-mêmes, afin de connaître les autres et pouvoir agir en conséquence. Comme il le dit lui-même, je le cite, « Si vous avez un projet, si vous y croyez, faites-le. Si vous ne le faites pas, cela ne tient qu'à vous. Car les hommes sont ainsi qu'une fois engagés. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous accompagner. » Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que l'auteur reconnaît qu'il aime aussi, c'est bien naturel, assister à la réussite de ses actions, parce que cela flatte son ego, que voyez-vous, humain trop humain. Mais par conséquent, on se dit que peut-être certaines de ces anecdotes sont vraiment trop belles pour être vraies. Par exemple, il cite une rencontre qu'il a eue avec l'un des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, où il explique que ce dernier lui a dit que si la construction européenne était à refaire, il commencerait par la culture. Personnellement, pour avoir fréquenté de nombreuses personnes dans les cercles européens, je peux vous témoigner que tout le monde dit que cette affirmation que l'on prête à Jean Monnet est parfaitement apocryphe. Tout simplement parce que pour les pères de l'Europe, il était absolument essentiel que la paix soit d'abord construite par ce par quoi les États se faisaient la guerre. Et c'était quoi ? C'était à l'époque le charbon et l'acier qui étaient deux matériaux absolument essentiels pour faire la guerre. Alors, peut-être que Marek Alterbe a fait sienne la maxime d'un autre auteur français, Marcel Pagnol, qui disait à propos de ses souvenirs d'enfance « Je n'exagère jamais, je magnifie ». Mais qui sait ? Mais en tout cas, un livre que je vous recommande donc chaudement, il s'agit de « Faites-le » du romancier Marek Alterbe et c'est publié aux éditions Kero. À mon tour de vous lancer cet appel, lisez-le et surtout, faites-le. Voilà qui met fin à notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute. Je vous rappelle que se tient aujourd'hui le troisième colloque en relations internationales du Québec, organisé par le GIRIC, le groupe d'études en relations internationales du Québec. L'événement se tient dans les locaux de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, à deux pas de nos locaux à Radio Centre-Ville. Donc l'adresse est au 4750 avenue Henri-Julien et l'entrée est gratuite. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous invite à consulter notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com où vous aurez toutes les informations nécessaires reliées à cette émission. Merci encore à notre invité de ce jour, Gérard Lechêne, et tout de suite après, vous retrouverez le magazine Centre-Ville. Je vous rappelle que cette émission est réécoutable en ligne ou en baladodiffusion et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien et excellente semaine sur Radio Centre-Ville.